Chapitre 6 Versets 1 à 4 Enfants et parents. Citation de l'Écriture. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Fin de citation. On a remarqué que les exhortations dans l'Épître aux Éphésiens commencent toujours par ceux à qui la soumission est demandée. Les exhortations spéciales sont précédées par une exhortation d'ordre général à se soumettre les uns aux autres. Verset 21 du chapitre 5. Les exhortations à la soumission sont particulièrement adressées aux femmes, aux enfants et aux serviteurs, les femmes étant exhortées avant les maris, les enfants avant les parents et les serviteurs avant les maîtres. Cet ordre semble attacher une grande importance au principe de la soumission. Quelqu'un a dit « Le principe de la soumission et de l'obéissance porte en lui la guérison de l'humanité. » Le péché est la désobéissance, et il est entré dans le monde par la désobéissance. Dès lors, l'essence du péché a été que l'homme fasse sa propre volonté et refuse d'être soumis à Dieu. Une femme insoumise amènera la misère dans un foyer. Un enfant insoumis sera un enfant malheureux. Et un monde non soumis à Dieu ne peut être qu'un monde malheureux et misérable. Ce ne sera que lorsque le monde sera amené à la soumission à Dieu, sous le règne de Christ, que ses souffrances seront guéries. Le christianisme enseigne cette soumission, et le foyer chrétien devrait anticiper quelque chose de la félicité d'un monde soumis au sceptre de Christ. L'obéissance de l'enfant doit néanmoins être dans le Seigneur. Cela suppose un foyer gouverné par la crainte du Seigneur, et, par conséquent, selon le Seigneur. La citation de l'Ancien Testament, qui lie la promesse de bénédiction à l'obéissance aux parents, montre combien Dieu estimait l'obéissance sous la loi. Bien que, dans le christianisme, la bénédiction soit d'un ordre céleste, dans les voies gouvernementales de Dieu, le principe demeure toutefois vrai que le fait d'honorer ses parents amène à la bénédiction. Les parents ne doivent pas élever leurs enfants selon le principe de la loi, qui pourrait les amener à dire à l'enfant « Si tu n'es pas sage, Dieu te punira ». Ils ne doivent pas non plus les élever selon les principes du monde, qui ne tiennent aucun compte de Dieu. Si nous les éduquons simplement avec des motifs mondains, pour les armer pour une vie dans le monde, nous ne devons pas être surpris qu'ils dérivent vers le monde. En outre, les parents ont à veiller à ne pas irriter ni provoquer leurs enfants, et à ne pas détruire ainsi, en perdant leur affection, la bonne influence qu'ils doivent avoir sur eux. Leurs affections ne seront conservées et les enfants ne seront gardés du monde que s'ils sont élevés dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Ils doivent être élevés comme pour le Seigneur et comme le Seigneur le ferait. Versets 5 à 9 Serviteurs et maîtres. Citation de l'Écriture. Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, en simplicité de cœur, comme à Christ, ne servant pas sous leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes, mais comme esclaves de Christ, faisant de cœur la volonté de Dieu, servant joyeusement, comme asservis au Seigneur et non pas aux hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit homme libre, quelque bien qu'il fasse, le recevra du Seigneur. Et vous, maîtres, faites-en de même envers eux, renonçant aux menaces, sachant que, et leur maître, et le vôtre, est dans les cieux, et qu'il n'y a pas d'acception de personne auprès de lui. Fin de citation. Pour que le serviteur chrétien rende l'obéissance à un maître terrestre, il faudra un cœur qui soit droit envers Christ. Ce n'est que comme serviteur de Christ, cherchant de cœur à faire la volonté de Dieu, qu'il pourra servir son maître terrestre joyeusement. Ce qui est fait joyeusement pour le Seigneur aura sa récompense. Les maîtres chrétiens doivent être gouvernés par les mêmes principes que les serviteurs chrétiens. Dans toute sa façon d'agir envers ses serviteurs, le maître doit se souvenir qu'il a lui-même un maître dans les cieux. Il doit traiter ses serviteurs de la même manière qu'il attend que ses serviteurs le servent. De plus, il doit renoncer aux menaces, n'usant pas de sa position d'autorité pour en proférer. Versets 10 à 20. La lutte. Citation de l'Écriture. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l'esprit, et veillant à cela avec toute persévérance, et des supplications pour tous les saints et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte, pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur lié de chaînes, afin que j'use de hardiesse en lui, comme je dois parler. Fin de citation. L'Épître aux Éphésiens se termine par un passage frappant qui présente la lutte chrétienne. Cette lutte n'est pas l'exercice d'âme que nous pouvons traverser en cherchant à saisir la vérité. Elle suppose que nous connaissons et apprécions les merveilleuses vérités de l'Épître, et la lutte naît de l'effort déployé pour garder et maintenir ces vérités face à toutes les puissances contraires. Dans le cours de l'Épître, l'apôtre a placé devant nous notre appel céleste, l'héritage de la gloire à laquelle nous sommes prédestinés, le mystère de l'Assemblée et la vie pratique qui découle de ces grandes vérités. Mais dès que nous sommes déterminés à entrer dans nos bénédictions célestes et à marcher en accord avec elles, nous découvrons immédiatement que toute la puissance de Satan est déployée contre nous. Dans sa haine contre Christ, le diable cherche à nous dérober la vérité, ou, s'il n'y parvient pas, il cherche à amener du déshonneur sur le nom de Christ et à discréditer la vérité en produisant une défaillance morale chez ceux qui tiennent ferme cette vérité. Plus grande est notre connaissance de la vérité, plus le déshonneur jeté sur Christ sera grand si nous défaillons en laissant agir la chair. Nous devons donc être prêts à affronter la lutte, et plus nous aurons de vérité, plus la lutte sera sévère. En vue de cette lutte, trois choses sont placées devant nous. En premier lieu, la source de notre force. Ensuite, le caractère de l'ennemi, contre lequel nous luttons. Enfin, l'armure qui nous est fournie pour que nous puissions résister aux assauts de l'ennemi. Verset 10. La puissance du Seigneur. L'apôtre dirige d'abord nos pensées vers la puissance qui est pour nous, avant de décrire la puissance qui est contre nous. Pour affronter cette lutte, nous devons toujours nous souvenir que toute notre force est dans le Seigneur. C'est pourquoi Paul dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force ». Nous avons souvent de la peine à réaliser que nous n'avons aucune force en nous-mêmes. Par nature, nous aimerions être forts en nombre, forts en don ou forts dans la puissance de quelque chef énergique, mais notre seule et vraie force est dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. La prière du premier chapitre place devant nous la grandeur de la puissance de Dieu. Christ a été ressuscité d'entre les morts et placé à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. « Eh bien, dit l'apôtre, c'est là l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. La puissance qui est contre nous est infiniment plus grande que notre propre puissance. Mais la puissance qui est pour nous est une puissance supérieure, elle surpasse toute la puissance qui nous est opposée. En outre, celui qui a la puissance suprême est celui qui possède les richesses insondables et qui nous aime d'un amour qui surpasse toute connaissance. Chapitre 3, versets 18 et 19. Autrefois, Gédéon a été préparé pour le combat d'abord par ces paroles « L'Éternel est avec toi ». Ensuite, il a reçu l'injonction « Va avec cette force que tu as ». La famille de Gédéon pouvait être la plus pauvre à Manassé, et lui-même être le plus petit dans la maison de son père. Mais qu'importait la pauvreté de Gédéon ou sa faiblesse si l'Éternel, qui est riche et puissant, était pour lui et avec lui. Juges 6, versets 12 à 15. De même, plus tard, Jonathan et le jeune homme qui portait ses armes purent affronter une grande armée par la puissance de l'Éternel, car, dit Jonathan, rien n'empêche l'Éternel de sauver avec beaucoup ou avec peu de gens. 1 Samuel 14, verset 6. De même, nous aussi, avec les manquements derrière nous, la faiblesse parmi nous et la corruption tout autour de nous, nous avons besoin de réaliser tout à nouveau la gloire du Seigneur, la puissance du Seigneur, les richesses du Seigneur, l'amour du Seigneur, et d'avancer dans la puissance de sa force avec le Seigneur devant nous. En dehors de Christ, nous n'avons aucune puissance. Le Seigneur peut dire « Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire ». Mais l'apôtre déclare « Je puis toutes choses en celui qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13. C'est donc seulement quand nos âmes demeurent dans la communion secrète avec Christ que nous pourrons nous servir de la puissance qui est en lui. Ainsi, toute la puissance de Satan tendra à détourner nos âmes de Christ et cherchera à nous empêcher de nous nourrir de lui et de marcher dans la communion avec lui. Il essaiera peut-être de nous priver de la communion avec Christ par les soucis et les devoirs de la vie de tous les jours ou par la maladie et la faiblesse du corps. Il peut chercher à se servir des difficultés du chemin, des disputes entre les enfants de Dieu ou des insultes mesquines que nous avons à essuyer pour nous déprimer dans notre esprit ou nous agiter dans notre âme. Mais si, au lieu de laisser toutes ces choses se placer entre notre âme et le Seigneur, nous en faisons des occasions pour nous rapprocher de lui, nous apprendrons ce que c'est qu'être fort dans le Seigneur tout en réalisant notre propre faiblesse et nous découvrirons le réconfort de ses paroles « Rejette ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. » Psaume 55, verset 22. Versets 11 et 12. La puissance de l'ennemi. Nous sommes d'abord exhortés à nous souvenir que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. Le diable peut certes se servir d'hommes et de femmes pour s'opposer aux chrétiens et renier la vérité, mais nous devons regarder au-delà des instruments et discerner celui qui les utilise. Une femme dans la chair et le sang s'est opposée à Paul à Philippe. Mais Paul a discerné le mauvais esprit qui animait la femme et, dans la puissance du nom de Jésus-Christ, il est entré en lutte avec la puissance spirituelle de méchanceté commandant au mauvais esprit de sortir d'elle. Acte 16, versets 16 à 18. Un vrai disciple, dans la chair et le sang, s'est opposé au Seigneur. Pierre a dit, devant les souffrances du Seigneur, « Seigneur, Dieu t'en préserve !» Mais le Seigneur, connaissant la puissance de Satan derrière l'instrument, a pu dire « Va, arrière de moi, Satan !» Matthieu 16, versets 22-23. La lutte est donc contre Satan et ses armées, quel que soit l'instrument employé. Les principautés et les autorités sont des êtres spirituels, dans une position de domination, avec le pouvoir d'exécuter leur volonté. Ces êtres peuvent être bons ou mauvais. Ici, ce sont des êtres mauvais et leur méchanceté semblerait s'exercer dans une double direction. Quant au monde, ils sont les dominateurs de ces ténèbres. Quant aux chrétiens, ils sont la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Le monde est dans les ténèbres, dans l'ignorance de Dieu, et ces êtres spirituels dominent et dirigent les ténèbres du paganisme, de la philosophie, de la science faussement ainsi nommée et de l'incrédulité, aussi bien que les superstitions, les corruptions et le courant actuel de la chrétienté. Le chrétien est introduit dans la lumière et est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Le chrétien rencontre donc une opposition à caractère religieux. elle est le fait d'être spirituel qui cherche à le dépouiller de la vérité de son appel céleste, à le séduire dans un chemin qui est un reniement de la vérité ou dans une conduite qui n'est pas en accord avec elle. Nous sommes en outre instruits quant au caractère de cette opposition. Ce n'est pas simplement la persécution ou un reniement direct de la vérité. C'est l'opposition beaucoup plus subtile et dangereuse, décrite comme les artifices du diable. Un artifice est quelque chose qui paraît beau et innocent, et qui pourtant détourne l'âme du sentier de l'obéissance. Combien souvent, dans ces jours de confusion, le diable cherche à conduire ceux qui possèdent la vérité dans quelque sentier détourné, lequel, au début, dévie si peu du vrai chemin que quiconque y objecterait paraîtrait trop pointilleux. Il y a une question simple que nous pouvons nous poser chacun à soi-même, par laquelle tout artifice peut être détecté. Si je poursuis dans cette voie, où me mènera-t-elle? Lorsque le diable suggéra au Seigneur de transformer des pierres en pain pour satisfaire sa faim, cela paraissait une chose bien innocente. Néanmoins, c'était un artifice qui aurait conduit hors du sentier de l'obéissance à Dieu et un reniement de la parole qui disait « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Pour détourner les croyants de Galatie de la vérité de l'Évangile, le diable s'est servi de la loi comme artifice pour les prendre au piège de la suffisance légale. Pour détourner les saints de Corinthe de la vérité de l'Assemblée, le diable a employé le monde comme artifice pour les amener à une complaisance charnelle envers soi-même. Pour détourner les saints de Colosse de la vérité du mystère, le diable a eu recours aux artifices des discours spécieux de la philosophie et de la superstition pour les prendre au piège de l'exaltation religieuse. Ce sont les mêmes artifices auxquels nous avons à faire face. Verset 13. L'armure de Dieu. Dans cette lutte, une armure humaine ne servira à rien. Nous ne pouvons résister au diable qu'avec l'armure de Dieu. Les ressources humaines, comme les capacités naturelles et la force du caractère naturel, ne seront d'aucune utilité dans cette lutte. La confiance en une telle armure peut nous conduire à livrer combat à l'ennemi, mais seulement pour subir la défaite. L'apôtre Pierre en a fait l'expérience lorsque, confiant en sa propre force, il est entré dans la lutte, seulement pour tomber devant une servante. Certes, Dieu peut employer à son service les capacités et l'érudition humaine. Ici, néanmoins, il ne s'agit pas de ce que Dieu emploie à son service, mais plutôt de ce que Dieu nous a donné comme arme dans la lutte contre les artifices de l'ennemi. L'ennemi que nous avons à rencontrer n'est pas la chair et le sang, et les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. 2 Corinthiens 10, verset 4. De plus, dans cette lutte, nous avons besoin de l'armure complète de Dieu. Si une pièce manque, Satan saura tout de suite détecter son absence et nous attaquer à l'endroit vulnérable. Enfin, l'armure doit être revêtue. Ce n'est absolument pas parce que nous sommes chrétiens que nous avons automatiquement revêtu l'armure. L'armure est préparée pour le chrétien, mais il lui incombe de la revêtir. Il ne suffit pas de regarder l'armure, de l'admirer ou d'être capable de la décrire. Il faut revêtir l'armure complète de Dieu. Nous apprenons ensuite que l'armure est nécessaire en vue du mauvais jour. Dans un sens général, toute la période de l'absence de Christ est un mauvais jour pour le croyant. Il y a toutefois des occasions où l'ennemi lance des attaques spéciales contre les enfants de Dieu, cherchant à les dépouiller de vérités particulières. De telles attaques constituent, pour les enfants de Dieu, un mauvais jour. Pour résister, nous avons besoin de l'armure complète de Dieu. Il est trop tard pour revêtir l'armure quand on est engagé dans la lutte. Nous avons besoin de l'armure pour résister et pour tenir ferme. Après avoir résisté à l'offensive de l'ennemi dans une attaque particulière, nous aurons encore besoin de l'armure pour rester sur la défensive. Après avoir tout surmonté, nous avons encore besoin de notre armure pour tenir ferme. C'est souvent lorsque nous avons remporté une victoire signalée que nous sommes le plus en danger, car il est plus facile d'enlever une position que de la conserver. Une fois que l'armure a été revêtue, elle ne peut être enlevée en toute sécurité tant que la puissance spirituelle de méchanceté est dans les lieux célestes et que nous sommes sur la scène où Satan déploie ses artifices. Si nous comptons la prière comme faisant partie de l'armure, nous avons 7 pièces distinctes de l'armure. Verset 14. La ceinture de la vérité. Nous devons tenir ferme, ayant ceint nos reins de la vérité. Spirituellement, cela parle des pensées et des affections maintenues sous le contrôle de la vérité. En appliquant la vérité à nous-mêmes, et en jugeant ainsi par elle toutes les pensées et tous les mouvements du cœur, nous devrions non seulement être libérés des aspirations internes de la chair, mais nous devrions avoir nos affections formées selon la vérité et avoir ainsi l'esprit d'humilité, nos affections étant fixées sur les choses qui sont en haut. La première pièce de l'armure fortifie donc l'homme intérieur et règle nos pensées et nos affections, plutôt que notre conduite, nos paroles et nos voix. Souvent, nous faisons de gros efforts pour sauvegarder un comportement extérieur correct les uns vis-à-vis des autres, tandis que, en même temps, nous ne prêtons pas attention à nos pensées et à nos affections. Si nous voulons résister aux artifices de l'ennemi, il nous faut commencer par être droit intérieurement. Le prédicateur nous met en garde quant à ce que nous disons avec nos lèvres, quant à ce que nos yeux regardent et quant au chemin que nos pieds empruntent, mais en tout premier lieu, il dit « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde » Proverbe 4, versets 23 à 27. Jacques nous prévient que si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Jacques 3, verset 14. Les querelles entre frères commencent dans le cœur et ont leur racine dans une jalousie amère. Quand la vérité garde le contrôle des affections, les querelles, la jalousie amère et les autres tristes manifestations de la chair seront jugées, et si elles sont jugées, nous serons capables, au mauvais jour, de résister aux artifices du diable. Hélas, trop souvent, le mauvais jour nous surprend sans que nous soyons préparés. Nous avons négligé de revêtir la ceinture, de sorte que, s'il survient une provocation soudaine, nous agissons selon la chair, et lorsque nous sommes outragés, nous rendons l'outrage. Au lieu de souffrir avec patience, nous menaçons. Veillons à prendre la ceinture et ainsi à marcher d'une manière habituelle avec les pensées et les affections contrôlées par la vérité. La cuirasse de la justice. Avec la deuxième pièce de l'armure, nous passons à notre conduite pratique. La justice pratique est exprimée dans le chrétien par une marche en accord avec la position et les relations dans lesquelles il est placé. Nous ne pouvons pas résister à l'ennemi avec une conscience qui nous accuse d'un mal non jugé dans nos voies et dans nos associations. Nous ne pouvons pas tenir ferme pour la vérité si nous la renions en pratique. Ayant revêtu la cuirasse et marchant ainsi dans la justice pratique, nous ne craindrons pas lorsque nous serons appelés à rencontrer l'ennemi au mauvais jour. Les pieds chaussés. Verset 15. La justice pratique conduit à une marche dans la paix. L'évangile de paix que nous avons reçu nous prépare à marcher en paix au milieu de l'inquiétude du monde. Quand notre cœur est gouverné par la vérité et que nos voies sont pratiquement en accord avec la vérité, nous marchons dans ce monde avec la paix dans l'âme et nous pouvons affronter le mauvais jour dans un esprit de paix et de sérénité. Nous ne serons pas indifférents à l'agitation de ce monde, mais nous ne serons pas affectés ni remplis d'anxiété par les événements. En parlant des hommes naturels, l'Écriture dit « Ils n'ont point connu la voie de la paix » Romains 3, verset 17. Mais ceux qui ont les pieds chaussés sont caractérisés par la paix, même au sein de la lutte. Le bouclier de la foi, verset 16. Aussi nécessaire que soit la ceinture de la vérité, pour contrôler nos pensées et nos affections, la cuirasse, pour maintenir notre conduite dans la justice pratique, et la chaussure pour nous faire marcher en paix au travers de ce monde, il faut encore autre chose pour la lutte. Nous avons besoin, par-dessus tout, du bouclier de la foi pour nous protéger des dards enflammés du méchant. Ici, la foi n'est pas la réception du témoignage de Dieu concernant Christ, par quoi nous sommes sauvés, mais la foi est la confiance journalière en Dieu qui nous donne l'assurance que Dieu est pour nous. Sous le poids des diverses épreuves qui nous accablent, que ce soit les circonstances, la maladie, le deuil ou les nombreuses difficultés qui surgissent constamment parmi le peuple de Dieu, nous serons peut-être la cible de l'ennemi qui cherchera à assombrir notre âme par l'horrible suggestion que, après tout, Dieu est indifférent et qu'il n'est pas pour nous. Dans cette sombre nuit où les disciples durent affronter la tempête sur le lac, dont les vagues se jetaient dans la nacelle, Jésus était avec eux, quoique endormi, comme s'il était indifférent au danger qui les menaçait. C'était une épreuve pour leur foi. Hélas, n'ayant pas pris le bouclier de la foi, un dard enflammé transperça leur armure, et la pensée horrible leur vint qu'au fond, le Seigneur ne s'inquiétait pas d'eux, car ils le réveillèrent et dirent « Ne te mets-tu pas en peine que nous périssions ?» Marc 4, versets 37 et 38. Un dard enflammé n'est pas un désir soudain de satisfaire quelque convoitise venant de la chair en nous. C'est plutôt une suggestion diabolique, venue du dehors, suscitant un doute quant à la bonté de Dieu. Satan lança un dard enflammé à Job lorsque, dans sa terrible épreuve, sa femme lui suggéra « Maudit Dieu et meurs !» Job éteignit ce dard enflammé par le bouclier de la foi, car il dit « Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu, et nous ne recevrions pas le mal. » Job 2, versets 9 et 10. Le diable se sert encore des circonstances éprouvantes de la vie pour tâcher d'ébranler notre confiance en Dieu et de nous écarter de lui. La foi emploie ces mêmes circonstances pour se rapprocher de Dieu, et ainsi elle triomphe du diable. Satan peut encore chercher à instiller quelques pensées abominables dans notre esprit, quelques suggestions incrédules dont le poison pénètre dans l'âme et obscurcit l'esprit. De telles pensées ne sont pas repoussées par des raisonnements humains ou en s'appuyant sur des sentiments ou des expériences, mais par la simple foi en Dieu et en sa parole. Le casque du salut, verset 17. Avec le casque, le croyant pourra relever hardiment la tête en présence de l'ennemi. En résistant par la foi au dard enflammé du méchant, nous découvrons, dans nos circonstances éprouvantes, que Dieu est pour nous et qu'il nous délivre non seulement des épreuves, mais, comme les disciples dans la tempête, à travers les épreuves. Nous sommes alors à même d'avancer avec courage et énergie, dans la conscience que, quelque faibles que nous soyons en nous-mêmes, Dieu est le Dieu de notre salut, et que Christ peut nous sauver entièrement. Hébreux 7, verset 25. L'épée de l'esprit, verset 17. Il est clairement dit que cette pièce de l'armure est la parole de Dieu, et cependant, ce n'est pas la parole seulement, mais la parole utilisée dans la puissance de l'esprit. C'est l'arme offensive par excellence. Si nous n'avons pas revêtu l'arme qui contrôle nos pensées intérieures, notre marche extérieure, et qui nous établit dans la confiance en Dieu, nous ne serons pas dans une bonne condition pour manier l'épée de l'esprit. Quand la parole de Dieu est employée dans la puissance de l'esprit contre l'ennemi, elle est irrésistible. Lorsque le Seigneur a été tenté par les artifices du diable, il lui a à chaque fois résisté par la parole de Dieu utilisée dans la puissance de l'esprit. Il est écrit « A démasqué et vaincu le diable ». La parole de Dieu demeurant en nous est notre force, car l'apôtre Jean peut dire des jeunes gens « Vous êtes forts » et « La parole de Dieu demeure en vous » et « Vous avez vaincu le méchant » 1 Jean 2, verset 14. Quelqu'un a dit « Notre affaire est d'agir selon la parole, quoi qu'il puisse s'en suivre. Le résultat montrera que la sagesse du Dieu était en cela. Celui qui se sert de la parole peut être faible et n'avoir que peu d'intelligence naturelle, mais il éprouvera que la parole de Dieu est vivante et opérante et que, par elle, tout artifice de l'ennemi se trouve déjoué. La prière, versets 18 à 20. Après avoir décrit l'armure et nous avoir enjoint de la revêtir, l'apôtre termine par l'exhortation à prier. L'armure, aussi parfaite soit-elle, n'est pas donnée pour nous rendre indépendants de Dieu. Elle ne peut être utilisée à bon escient que dans l'esprit de dépendance envers celui qui la fournit. Le Seigneur exhorte les siens à toujours prier et ne pas se lasser. Luc 18, verset 1. Et Paul veut que les hommes prient en tout lieu. 1 Timothée 2, verset 8. Ici, nous sommes exhortés à prier en tout temps. La prière est l'attitude constante de dépendance envers Dieu. En toutes circonstances, en tout lieu et en tout temps, nous devons prier. Mais la prière peut devenir une simple redite. Aussi est-elle liée aux supplications, qui sont le cri pressant de l'âme consciente de son besoin. Elle doit, en outre, être sous la direction de l'Esprit et être accompagnée de la foi qui attend la réponse de Dieu. Lorsque Pierre était en prison, l'assemblée faisait d'instantes prières à Dieu pour lui, mais manifestement elle manqua quelque peu dans la vigilance, car lorsque Dieu répondit à leurs prières, ils eurent de la peine à croire que Pierre était libre. De plus, la prière par l'Esprit embrassera tous les saints, et pourtant elle s'abaissera aux besoins d'un seul serviteur. Aussi l'apôtre exhorte les saints à Éphèse non seulement à prier pour tous les saints, mais aussi pour lui. Au cours des siècles, les saints ont eu besoin de l'armure de Dieu, mais en ces jours de la fin, alors que les ténèbres de ce monde s'épaississent et que les artifices du diable se multiplient et que la chrétienté retourne au paganisme et à la philosophie, combien il est de toute importance de prendre l'armure complète de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenons donc ferme, ayant saint nos reins de la vérité et étant ainsi gardés intérieurement droits dans nos pensées et nos affections, ayant revêtu la cuirasse de la justice, afin d'être conséquents dans toute notre vie pratique, ayant chaussé nos pieds de la préparation de l'évangile de paix, afin de marcher en paix au milieu d'un monde de discorde, de lutte et de confusion, prenant le bouclier de la foi pour marcher dans la confiance journalière en Dieu, prenant le casque du salut et réalisant ainsi que Dieu fait travailler toutes choses à notre bien et à notre salut, prenant l'épée de l'Esprit par laquelle nous pourrons détourner toutes les attaques subtiles de l'ennemi, enfin priant en tout temps afin de pouvoir nous servir de l'armure dans l'esprit de dépendance constante de Dieu.